J'aimerais ce matin vous raconter l'histoire d'une femme qui veut aller bien. Elle se dit logiquement qu'il faut qu'elle prenne soin d'elle-même et pour commencer de ses besoins primaires. Oui, manger, boire, dormir. On va commencer par le commencement. Parfois on se prend un peu trop la tête, on cherche trop loin les raisons de sa fatigue, on plonge trop loin dans son histoire familiale ou son histoire sociale, mais on se prend trop la tête, on a juste un mauvais oreiller. On a juste mal dormi ou mal mangé de la saloperie de produits transformés. On n'a juste pas assez bu d'eau fraîche. Manger, boire, dormir et faire l'amour ou faire du sexe, car la fatigue d'après le plaisir n'est peut-être plus de la fatigue. Bref, les besoins primaires. Mais on sait depuis les travaux des psychologues de l'attachement, depuis les travaux de John Bowlby ou de Boris Cyrulnik, que cette liste des besoins primaires est incomplète. On connaît l'histoire des enfants des orphelinats roumains qui ont eu à manger, à boire, des lits pour dormir, mais qui n'ont reçu aucun soin, aucune attention, n'ont été enveloppés par aucun amour et ont développé ce syndrome d'hospitalisme décrit par le psychanalyste René Spitz, à savoir un état dépressif sévère et une incapacité à développer leur intelligence. Les animaux humains n'ont ainsi pas seulement besoin de boire, de manger et de dormir, ils ont besoin tout autant que l'on prenne soin d'eux. Mais ce n'est pas tout. Car le jour où elle a vraiment commencé à aller mieux, ce n'est pas le jour où elle a enfin pris soin d'elle-même, ni même le jour où on a pris soin d'elle, c'est le jour où elle s'est mise à prendre soin des autres, à se sentir utile aux autres, et même à chanter du Julien Clerc « Je veux être utile à vivre et à rêver ». Être utile aux autres, prendre soin d'eux, se soucier d'eux et de tous les autres. Un ami pour lequel auparavant elle n'avait pas assez de temps, un parent, une collaboratrice, des femmes cherchant comme elle à faire tomber le patriarcat et même un chien, des escargots, des arbres, des fleurs et pourquoi pas le monde. Elle est tombée sur les travaux du chercheur en neurosciences Yak Panksepp qui montre que prendre soin des autres fait partie des besoins primaires des mammifères humains. Oui, vous avez bien entendu, des besoins primaires des mammifères humains et même, accrochez-vous, des mammifères non humains. Pour en parler ce matin, de ce qui peut nous faire tant de bien et de notre statut de mammifère capable de care, j'ai la joie de recevoir une écrivaine et essayiste engagée, autrice de nombreux best-sellers, dont présentes et futures aux éditions Alary, créatrice de podcasts La Poudre et puis plus récemment Folie Douce, auteure du très joli récit Courir l'escargot aux éditions Jean-Claude Lateste, vous l'avez sûrement reconnue, Lorraine Bastide, est ce matin avec nous sous le soleil de Platon. Et en sa compagnie, nous allons nous demander quelles sont les luttes qui nous font le plus de bien.
Sous le soleil de Platon, Charles Pépin sur France Inter.
Bonjour Lorraine Bastide.
Bonjour Charles.
Alors est-ce que vous allez bien ?
Ça va bien aujourd'hui, oui.
Aujourd'hui ?
Oui, ça va là.
Alors grâce à quoi ?
Je pense que ça va bien parce que j'ai tout fait bien ce matin. J'ai pris le temps de marcher avec mon chien, ouais. J'ai fait un peu de yoga, j'ai parlé à ma famille, je suis venue à vélo jusqu'à la maison de la radio.
Ah oui ?
Donc, et j'ai séparé une altercation entre deux cyclistes. Donc j'ai fait
bien,
un peu
ça.
Le bien.
Ouais. Ah ouais.
Donc ça va, je me sens très en forme.
Bah, c'est vraiment un bon petit bilan de la journée, j'espère que ça ne va pas tout gâcher. Alors Lorraine Bastide, on va parler de plein de choses, mais notamment de la manière dont, dans vos livres et même vos podcasts, vous avez, je dirais, glissé d'un focus sur la lutte féministe à un focus sur la santé mentale. On va parler de ça. J'ai entre les mains deux de vos livres, Futurs, aux éditions Alary, Comment le féminisme peut sauver le monde, et Courir l'escargot, on verra ce que ça veut dire tout à l'heure, aux éditions Lateste. Mais avant ça, je voudrais qu'on commence plus sur la notion des besoins primaires, parce que je vous ai entendu en parler de façon très lumineuse dans le podcast de Louise Aubry, ça m'a vachement intéressé, et vous lui disiez, et c'était très convaincant, bah, il faut d'abord se concentrer sur les besoins primaires, sur la base.
Oui, c'est vrai. Bah, c'est quelque chose que j'ai compris en faisant une thérapie qu'on appelle la thérapie comportementale ouais. et cognitive. Donc je pense que je suis assez influencée par cette TCC que j'ai suivie pendant 2-3 ans, après avoir essayé moult autres techniques thérapeutiques.
Ouais.
Et c'est vrai qu'on commence par la base, c'est-à-dire la satisfaction des besoins primaires. Boire suffisamment d'eau, être bien hydraté, avoir eu assez de sommeil, surveiller ce qu'on mange, évidemment éviter tous les produits type alcool ou excitants qui nous font pas du bien en fait aux nerfs et au cerveau. J'ai mis beaucoup de temps à mettre ça en place, évidemment l'exercice physique aussi,
ouais.
mais c'est vrai que prendre attention à ces choses-là, ça a été déjà un grand pas vers le mieux-être, voire vers le bien-être.
Vous voulez dire que le care, donc cette façon de prendre soin, commencerait par le self-care ?
Je pense que, en tout cas, on peut pas distinguer les deux. Je pense que c'est compliqué de le hiérarchiser. Je pense que c'est compliqué de le binariser. Et dans la pensée féministe, on essaye toujours de considérer les choses plus comme des cercles ou des spirales, plus que comme des pyramides ou des lignes droites. Mais évidemment, quand on prend soin des autres, on s'abîme beaucoup. On sait, par exemple, que les premières observations du phénomène du burn-out, c'était chez les soignants, les médecins, les infirmières. C'est des personnes qui se perdent complètement dans le soin des autres et qui, souvent, eux-mêmes dorment mal, mangent mal et sont pas en très bonne santé. Donc je pense qu'il est indispensable de prendre soin du corps qui permet de prendre soin des autres, de l'esprit qui permet d'avoir de l'empathie pour les autres, et qu'il faut certainement pas séparer les deux.
Ouais, c'est très intéressant ce que vous dites, d'autant qu'on avait reçu à ce micro Anne-Victoire Rousselet, qui est une psychothérapeute notamment qui bosse à Sainte-Anne, et qui nous parlait du trouble vicariant, c'est-à-dire du trouble de ceux qui prennent soin des autres, mais qui ne prennent pas soin d'eux-mêmes. Et j'imagine que ça intéresse aussi beaucoup la question du féminisme, parce que beaucoup de femmes ont souffert de trop s'occuper des autres et de pas assez s'occuper d'elles-mêmes. Mais le paradoxe, c'est que quand on pense aux théories que j'évoquais de Jacques Panksepp, c'est censé nous faire du bien de nous occuper des autres. Alors comment on fait avec ce paradoxe ?
Je pense que c'est censé nous faire du bien de nous occuper des autres d'un point de vue purement psychologique, peut-être neurologique. Si on prend un individu isolé, évidemment, le fait de prendre soin, c'est quelque chose qui fait du bien, qui est valorisant. On a un muscle naturel de l'empathie, on va dire, et du lien aux autres. Mais dans une société à dominante patriarcale, même à dominante même capitaliste, où le soin est dévalorisé, quand on regarde dans la société, les personnes qui s'occupent de tout ce qui est soin réel, par exemple nettoyer, faire en sorte que les lieux soit hygiénique, ce sont les personnes dont les métiers sont les plus dépréciés, qui sont les plus mal payés. C'est des métiers qui sont souvent dévolus aux femmes ou aux personnes issues de l'immigration. Donc en fait, je pense que la perspective sociologique féministe permet de comprendre que sociétalement, le care est dévalorisé, alors que humainement, il est fondamental.
Ouais. D'ailleurs, Lorraine Bassit, je vais lire un extrait de votre livre Futur, où justement, il est question précisément de ce que vous venez de dire. Donc c'est dans le chapitre « Nous prendrons soin les uns et les unes des autres ». Je trouve ça fascinant, écrivez-vous Lorraine Bastide, en passant, que Judith Butler, qui a commencé son travail de recherche sur le genre, se penche aujourd'hui sur la valeur de la vie. Quand on commence à regarder le monde sous le prisme féministe, on finit forcément par en arriver là. Réfléchir au sexisme, ça amène en ligne droite à réfléchir au sort des malades, des migrants, des migrantes, des handicapés, de la nature, des animaux, de tout le vivant en somme. Et si on se mettait vraiment collectivement à penser comme cela, à sortir de l'obsession de la liberté individuelle pour caresser l'épiderme du monde d'un regard traversant et mobile, alors on comprendrait que l'urgence est de sauver le vivant, tout le vivant, toutes les vies humaines, mais aussi animales. On comprendrait, concluez-vous très joliment, Lorraine Bastide, que la seule urgence pour le futur est de rendre toutes les vies pleurables. Alors j'ai beaucoup aimé ce moment sur le care. D'ailleurs, déjà dans votre livre d'avant, Présente, qui était moins un livre de prospective et plus un livre de bilan, il y avait déjà cette note dominante au fond. Vous arriviez à cette notion du care. Peut-être pour nos auditeurs et auditrices, on pourrait peut-être rappeler ce que ça veut dire, le care, peut-être chez Carole Gilligan.
Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est intéressant de voir que c'est une notion qui vient de la psychologie. Carole Gilligan, c'est une psychologue américaine qui a vraiment théorisé cette idée du care à travers... elle-même, elle était élève d'un psychologue éminent dans une université américaine qui avait édicté tout un tas de règles morales et comment on arrivait à distinguer l'apparition de la morale chez les enfants. Donc, il avait un espèce d'enfant imaginaire qui était un petit garçon et il considérait que ce petit garçon arrivait à maturité quand il savait, en gros, distinguer le bien et le mal. Et il avait une vision très, très binaire des choses. Et Carole Gilligan était son élève et s'est rendu compte que, finalement, si on appliquait cette règle pour évaluer la maturité des enfants, les petits garçons arriver à cette maturité plus rapidement que les petites filles. Donc elle s'est interrogée sur les ressorts éducatifs qui faisaient que les petites filles avaient une approche du bien et du mal plus complexe en fait. Et il y a cet exercice très intéressant, une espèce de dilemme qui est soumis à des enfants, un petit garçon et une petite fille, donc qui sont fictifs dans le texte de Carole Gilligan. Voilà, il y a un monsieur, je me rappelle plus de son nom d'ailleurs, mais c'est pas très important, dont la femme est malade, elle est atteinte d'une maladie incurable, un médicament peut la sauver. Est-ce qu'il doit voler le médicament ? Donc le petit garçon répond évidemment, la vie de la femme est plus importante que tout, donc oui, il doit voler le médicament. Très bien, le garçon est très mature. La petite fille pose des questions. Mais il a demandé à sa femme son avis ? Mais il ne connaît pas le pharmacien pour qu'il lui avance de l'argent, pour qu'il puisse avoir le médicament. Il n'y a pas une solution, on ne peut pas appeler un hôpital qui pourrait la soigner gratuitement. Et en fait, la petite fille a une façon de penser qui est beaucoup plus axée sur l'horizontalité des rapports, les interconnexions. Et c'est cela que Carol Gilligan appelle une morale du care. Alors, le problème, c'est que elle a été, à l'époque, ça date des années 80, ouais, accusée d'essentialiser, de dire que les petites filles ou les femmes avaient une tendance naturelle à être plus dans le soin. Mais ce qu'il faut, voilà, elle s'est aussi beaucoup rattrapée derrière en disant que c'est entièrement culturel et que ce sont les injonctions sociétales qui fabriquent cette sollicitude dans le cerveau des petites filles.
Exactement. Et c'est merci Lauriane Bastide de préciser, parce qu'elle a été un peu tournée en ridicule, en dérision, et elle a été mal comprise.
Oui.
Et c'était pas du tout ce qu'elle voulait dire.
Non.
Mais elle voulait juste poser comme ça un cadre dans lequel on pourrait comprendre ce que c'est que prendre soin et comment cette notion de soin, au fond, intègre une pensée plus complexe finalement, plus nuancée et presque plus délicate.
Oui, tenir compte en fait de la complexité des relations humaines. C'est-à-dire que c'est pour ça que cette pensée du care, elle répond aussi beaucoup à toute la pensée féministe et qu'on la retrouve chez Judith Butler. Judith Butler, elle a cherché à casser la binarité homme-femme. La pensée queer, c'est un peu l'idée qu'il y a les hommes, les femmes et puis tout le reste. Tout ce qu'il y a entre les deux, tout ce qu'il y a en débord. Mmh. Et donc on sort d'un schéma binaire. Eh bien le care, c'est la même chose. C'est sortir d'un schéma binaire, le bien, le mal, et de se dire qu'en fait, tout est beaucoup plus entremêlé qu'on ne le pense.
Alors je vous ai demandé au début de l'émission grâce à quoi vous alliez bien. Et ça m'a fait penser à ce livre, Courir l'escargot, un étonnant texte, très différent du texte précédent, qui est sorti aux éditions Lattès, qui est un récit, une promenade, une déambulation assez littéraire autour de la figure de l'escargot et finalement du ralentissement. Il se trouve que nous avions hier même à votre micro Timothée Parik, qui a écrit « Ralentir ou périr », et que finalement, vous militez pour le ralentissement aussi, dans ce livre.
Oui, complètement, ouais. Au niveau individuel comme au niveau collectif.
Ouais. Et ça vous est tombé dessus comment? Parce que vous avez eu une vie d'avant, on pourrait dire plus rapide. Je rappelle un peu votre histoire. Avant, il y a longtemps, vous étiez journaliste, même je crois rédac-chef de Elle. Vous avez été chroniqueuse à la télévision. Vous avez connu cette vie trépidante. Et puis, vous avez évolué. Et vous avez créé le podcast La Poudre. On va en parler tout à l'heure. Et puis, c'est encore après que vous avez senti ce besoin de ralentir.
Oui, je pense que j'ai une tendance à l'accélération un peu naturelle. Enfin, moi, on m'a diagnostiqué un trouble de l'attention avec hyperactivité. Donc, c'est vrai que cette hyperactivité, je la sens souvent. Il y a une espèce de volonté parfois de parler vite, de faire beaucoup de choses, de lancer plein de projets, plein d'idées. Et évidemment, quand on fait ça, on est rattrapé par le corps qui, au bout d'un moment, ne suit plus. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'avoir des gros moments de dépression ou de burn-out, c'est-à-dire où finalement, je ressens un immense abattement, une envie de ne plus rien faire, une paralysie en fait qui était engendrée par l'accélération qui avait précédé. Donc un de ces burn-out m'a donné envie de me tatouer sur le bras le mot ralenti qui m'est venu comme une espèce d'évidence. Mais en fait, il faut tout prendre plus lentement, il faut que je prenne plus mon temps. Et depuis que je me suis tatoué ce mot sur le bras, il est là. je pense plus souvent à ralentir, et ça va être aussi bien marcher plus lentement, manger plus lentement, que différer des prises de décision, prendre le temps de laisser réfléchir, de laisser infuser un problème avant de lui trouver une solution, arrêter de regarder mon téléphone, arrêter de vouloir intervenir, avoir un avis sur tout. Ce ralentissement, il m'apaise beaucoup sur le plan de la santé mentale, et évidemment, il répond à l'urgence de ralentir pour le monde et pour l'économie, pour pas que tout brûle.
Je ne sais pas si j'ai bien vu, mais à côté du tatouage ralenti, il y a un petit cœur.
Oui, il y a un petit cœur à côté.
Alors, Lauriane Bastide, j'ai choisi quelques moments à différents endroits du livre où vous parlez de l'escargot, mais dans la lecture, je me permets de les coller pour qu'on entende cette symbolique de l'escargot. Alors, je vous lis, Lauriane Bastide, donc, dans ce livre, « Courir l'escargot », on s'interrogera après sur le titre, qui est énigmatique au début, aux éditions Lattès, dans la collection « Bestiale ». L'escargot est lent. Quand il fait trop chaud, l'escargot dort. Quand il fait trop froid aussi. L'escargot est de gauche. Il sait qu'il faut travailler moins pour vivre mieux. Les choix politiques et philosophiques d'un animal qui existe depuis plus de 500 millions d'années, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Un peu plus loin, détester l'escargot, c'est avoir peur de l'altérité, se méfier du mou et de l'humide. L'escargot se classe du côté de la lune, du tendre et du fragile. Il est mal aimé, déprécié, parce qu'il ne correspond pas au canon de la virilité, parce qu'il n'est pas raide, dur, droit, tranchant, rapide. Détester l'escargot, c'est être un peu facho. L'escargot est tout sauf lâche. L'escargot est puissant. Il peut porter jusqu'à 70 fois son poids sur son dos. L'escargot est courageux, il est techniquement incapable de reculer. L'escargot est malin. Quel meilleur moyen d'économiser le temps de transport que d'avoir sa maison sur soi. Et puis, dernier passage, l'escargot est finalement plus déterminé que lent. L'escargot trace sa route et son trajet au sol en bavant des paillettes. L'escargot est une diva un peu pressée avec sa maison sur le dos. L'escargot, c'est moi. Alors, racontez-nous.
Il y a beaucoup de choses à raconter là. Non mais en fait j'ai commencé à écrire ce livre parce que Isabelle Sorrent, donc immense écrivaine qui dirige la collection Bestiale, m'a demandé un jour au cours d'un déjeuner, et toi si tu devais écrire ton portrait à travers un animal, lequel choisirais-tu? Et je lui ai dit, mais l'escargot évidemment. Et elle a ouvert la bouche parce que c'était pas forcément l'animal auquel elle s'attendait. Elle avait déjà publié la lionne, la chienne, enfin voilà, ouais. Elle s'attendait pas à ça. La lionne de Wendy Delorme et la chienne d'Ovidie, je tiens à les citer correctement. Et en fait, l'escargot m'est apparu comme une évidence parce que j'avais cet imaginaire de la coquille, cet endroit où, de repli, dans lequel j'aime bien parfois me glisser pour me protéger un peu des fluctuations du monde et puis de mes propres fluctuations. Et en fait, en creusant la figure de l'escargot, j'ai vu qu'il couvrait tellement, tellement de champs. Évidemment, il est hermaphrodite, donc il est queer. D'ailleurs, je devrais dire yel. Je le yélise.
Mais vous le dites dans le livre.
Dans le livre. Bien sûr. Et puis, il y a cette idée aussi qui renvoie à quelque chose. Il y a beaucoup de gens qui ont la phobie de l'escargot. Enfin, c'est pas un animal très très glorifié, alors que pourtant...
Maintenant
il l'est. Et surtout, ce qui est terrible, c'est que c'est un animal qui existe depuis vraiment longtemps. Enfin, quand on imagine les premiers fossiles qu'on apprend à l'école quand on est petit, ce sont des escargots. Et aujourd'hui, c'est un animal qui est très fortement menacé par le réchauffement climatique. Et c'est terrifiant de se dire qu'il a réussi à s'adapter à plusieurs centaines de millions d'années de modifications climatiques, qui va peut-être s'éteindre en quelques centaines d'années à cause de la chaleur.
Oui, c'est ça d'ailleurs qu'on... C'est une des multiples dimensions. Alors, c'est un texte très intéressant. Il est à la fois très court et très dense. On sautille comme ça d'une idée à l'autre, d'une symbolique à l'autre. Et on va en reparler après avoir écouté Rosalia. Ese gritalito roto, yo sentí como crujía. Antes de caerse al suelo, ya sabía que se rompía. Está parpadeando la luz del descansillo. Una voz de la escalera, alguien cruzando el pasillo. Malamente, sí, sí, malamente. Mira, malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo, malamente. Malamente. Se ha puesto la noche rara. Me salió luna y estrella. Me lo dijo esa gitana. ¿Qué? Mejor no salí a verla. Sueño que estoy andando por un puente que la acera.
Mira, 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 mira.
Cuanto más quiero cruzarlo.
Va.
Más se mueve y tambalea. Malamente. Así sí. Malamente. Mira. Malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo. Malamente. Malamente. Aunque no esté bonita, la noche un día. Pensarte malamente, así sí, malamente. Mira, malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo, malamente. Y yo, malamente. ¿A qué toma? Malamente. Y yo, malamente. Malamente. c'était Rosalia Malamente.
France Inter. Sous le soleil de Platon.
Nous sommes toujours avec Lorraine Bastide et c'est un plaisir. Lorraine, nous parlons de tous vos travaux. On essaye de redresser un peu tous vos parcours depuis présente jusqu'à futur en passant maintenant par Courir l'escargot. Et justement, avant d'écouter un peu de musique, on écoutait cette belle symbolique de l'escargot qui est aussi à la croisée d'une grande vulnérabilité et aussi d'une étonnante force.
C'est vrai qu'il y a, il y a à la fois le mou et le dur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup d'animaux, qui, à part les coquillages, les mollusques, qui cumulent une carapace qui est faite d'os, de pierre, qui est vraiment minérale, et puis encore, qui est la définition de la mollesse. Et là encore, il y a une symbolique très intéressante, c'est-à-dire que l'escargot, il représente la vulnérabilité, qui est une notion qui est aussi très importante dans la pensée féministe, qui est aussi très importante quand on parle de santé mentale. Je pense que ces dernières années, notamment avec tout ce qui s'est produit autour du mouvement MeToo, on a re-questionné cette histoire de vulnérabilité, cette idée d'être victime ou d'avoir souffert d'une violence. On lui a redonné de la dignité et de l'importance. Et donc quelque part, l'escargot a aussi ça à nous apprendre, c'est-à-dire la valeur de la vulnérabilité.
Oui, et puis moi, quand je vous regarde vous, je connais un peu votre parcours, et je pense à cette symbolique de l'escargot, ça m'étonne pas que ça vous parle, parce que d'un côté, il y a une forme de douceur chez vous, vous défendez la vulnérabilité, enfin, heureusement d'ailleurs, et de l'autre côté, je vous ai entendu par le passé dire que la violence était nécessaire pour sortir du patriarcat, que peut-être il fallait que les femmes s'autorisent la violence, qu'elles fassent des sports de combat. Je vous ai entendu dire dans la même interview que j'évoquais que vous faisiez 1m80 et que finalement, en apprenant la boxe, vous pouviez quand même latter pas mal de mecs plus petits que vous. Et donc, il y a toute cette dialectique comme ça, entre d'un côté une violence ou une force qu'on pourrait assumer, et de l'autre côté, la défense de la vulnérabilité.
Oui, c'est vrai qu'on pourrait y voir une forme de paradoxe. Après, j'ai défendu la violence dans le mouvement féministe parce qu'elle est trop souvent stigmatisée et censurée. La violence des femmes, c'est quelque chose qui passe très très mal. J'ai post-facé le Scum Manifesto de Valérie Solanas, donc qui est vraiment un livre profondément misandre, ouais, qui appelle avec, certains pensent, beaucoup d'humour, d'autres beaucoup de sarcasme ou vraiment de sincérité, qui appelle vraiment à éradiquer les hommes. Ouais. Voilà. Bon, évidemment, je suis absolument pas pour l'éradication de qui que ce soit et je suis pas pour les méthodes violentes. Mais par contre, je trouve que c'est vraiment intéressant de se pencher sur la violence quand elle émane de femmes qui ont été victimes de viols, quand elle émane d'une population qui subit le féminicide de façon massive. Et c'est important, encore une fois, de débinariser, de sortir de l'idée, ouais, que la vulnérabilité serait du côté des femmes et la force du côté des hommes. La réalité est bien plus complexe. Il y a des hommes très tendres, il y a des femmes très violentes. Et les femmes sont capables d'infliger la violence autant que de la subir.
Vous avez dit que Valérie Solanas était clairement misandre, et votre post-faste a succédé ou effacé, pourrait dire,
oui, c'est vrai,
invisibilisé celle de Michel Houellebecq. Qu'est-ce que ça vous a fait de passer après Houellebecq comme ça, ou passer devant lui?
J'étais contente de me dire que les temps avaient changé. C'est-à-dire que c'était un très bon signal pour moi que cette préface de Houellebecq, qui était profondément sexiste...
Alors, j'avoue que je ne l'ai pas lu. Vous pouvez nous dire ce qu'il y avait dedans?
J'ai effacé cela de ma mémoire, mais je me rappelle l'avoir lu en grinçant des dents, avec les yeux exorbités. Bon, elle avait peut-être une trentaine d'années,
ah oui,
donc elle avait vraiment très mal vieilli.
Mais alors, est-ce que vous vous diriez misandre?
Non, moi personnellement, non. Mais encore une fois, ce qui compte, c'est pas vraiment mon opinion. C'est-à-dire que je défends la misandrie. Je défends le droit de dire, ouais, je hais les hommes. Je pense que c'est totalement d'accord. Moi, je hais pas les hommes du tout. D'ailleurs, j'ai tendance à vraiment vouloir aussi sortir de cette idée que le sexe des gens serait finalement déterminant dans leurs valeurs sociales, même dans leurs opinions. Malheureusement, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de femmes qui sont porteuses d'idées très sexistes.
Bien sûr.
Voilà, enfin, les plus grands visages de l'extrême droite aujourd'hui en Europe, ce sont des femmes, plutôt des femmes jeunes, parfois des femmes lesbiennes. Ça mêle, enfin, je pense notamment à la représentante allemande de l'extrême droite. Mmh. Ça brouille les pistes. Et voilà, et je connais aussi des hommes, notamment des hommes queer, des hommes homosexuels, ou des hommes qui ont été victimes de violences sexuelles dans leur enfance, qui sont devenus des porte-paroles extrêmement puissants et justes de la cause féministe. Donc en fait, moi je suis pour qu'on rebatte les cartes. Par
Exactement.
Contre, je suis contre la chasse aux sorcières, contre les femmes qui ont envie de dire « je déteste les hommes », elles ont bien le droit de le dire, je pense.
Mais je comprends très bien. Et d'ailleurs, on ne peut pas être pour la fluidité et se dire misandre, parce que ça n'a plus de sens dans ce cas. Si tout est plus fluide et plus souple.
Ouais, voilà. Ah, je pense qu'on peut un peu. On peut toujours se débrouiller pour broder les idées entre elles. Hein. Je connais des consoeurs qui sont parfaitement à l'aise avec la pensée queer et qui se revendiquent misandres aussi.
Oui, d'ailleurs, j'avais eu cette discussion ici même avec Camille Froide-Vométry, une discussion très intéressante, mais elle se disait misandre. Et en fait, sa façon de l'entendre, c'était de dire. Je n'aime pas les hommes dans la mesure où ils laissent le patriarcat perdurer et dans la mesure où ils sont dans ce système. Je trouvais que c'était un peu une façon habile de parler, mais que ça ne veut pas dire être misandre, en fait. Parce qu'elle n'aime pas les hommes, ce n'est pas les hommes qu'elle n'aime pas, c'est les hommes dans le patriarcat.
Oui, et puis après aussi, quand on dit. On peut considérer que misandre, c'est une forme de mouvement politique, que c'est une pensée politique. Je veux dire, on peut dire je suis écologiste et puis quand même avoir une voiture, enfin, ça choque personne, quoi. Donc, ce n'est pas parce qu'on se revendique d'une forme de mouvement politique qui serait la misandrie qu'on va systématiquement donner des claques à tous les hommes qu'on croise. Donc, je pense que c'est aussi probablement ça que voulait dire Camille, dont j'admire beaucoup le travail. Le ramener sur un niveau politique. Quoi.
Oui. Alors, à la fin de Futur, vous concluez sur... vous prenez une petite distance par rapport à ce qu'il y avait à la fin de Présente. Mm-hmm. À la fin de Présente, vous repreniez le texte de Virginie Despentes, où en gros, elle faisait résonner, où c'était la même phrase qu'Adèle Haenel, « On se lève, on se casse
ouais. ».
Et puis, à la fin de Futur, qui est un livre qui annonce comment le féminisme pourrait sauver le monde, c'est plutôt « on s'assoit, on fait un sitting
ouais.
et on ne bouge plus, mais on attend que ça bouge ». Expliquez-nous la différence.
Je pense que c'est une différence intérieure. Je pense que ça renvoie un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'aspect à la fois violent, colérique que j'ai pu avoir dans certaines prises de parole et la douceur qui semble peut-être émaner plus de moi aujourd'hui. Je pense que j'ai calmé une forme de colère en moi. Je pense que très souvent le militantisme féministe, il commence par une rage profonde et que ce moteur, il est nécessaire. C'est-à-dire que quand on débute en féminisme, si on n'est pas vraiment enragé, parce que de toute façon ça va être dur, on va se prendre des pains, donc il vaut mieux être plutôt équipé, monté sur ressort pour y aller. Voilà, moi j'avais cette colère en moi, et je pense que à force de lecture, notamment de Carole Gilligan, de Judith Butler, de toutes les penseuses du Caire, j'aurais pu citer aussi Bell Hooks, ou même Angela Davis, je suis revenue à une idée que du besoin fondamental de non-violence.
Ouais.
Et je pense que ça revient aussi à ce qui s'est produit dans les mouvements militants, où ces derniers temps, on a vu tellement de violence se déchaîner contre les manifestations, que j'admire les méthodes militantes, par exemple, de mouvements comme Extinction Rébellion, ou ce qui viennent plus des milieux écolos, où en fait le concept va plutôt être de s'asseoir. Je pense à cette jeune femme qui s'était enchaînée à un filet de Roland Garros il y a quelques années pour dénoncer. Je ne sais même plus ce qu'elle dénonçait d'ailleurs, c'est terrible. Non, c'était le temps qu'il restait avant de pouvoir faire une rénovation énergétique des bâtiments en France. Et je pense que c'est une méthode politique qui est vraiment la non-violence et la force. Et c'est quelque chose que Judith Butler aussi exprime très bien. C'est-à-dire qu'être 1000 dans les rues à manifester, c'est super, mais être 1 million assis sur une place et à ne plus bouger, c'est encore plus puissant. Que peut faire la police, que peuvent faire tous les camions de l'armée contre une population qui décide de simplement s'arrêter.
Mais finalement, la douceur, c'est un peu un privilège quand on est sorti de la première colère.
C'est vrai. C'est très très vrai. Et vraiment, je ne veux pas non plus diaboliser la violence. Je crois que la violence, c'est parfois, et la colère, c'est parfois le seul recours. D'ailleurs, c'est un mécanisme psychologique contre lequel on ne peut pas forcément lutter. Et arriver à ce stade où on a pu canaliser sa colère est effectivement la marque d'un grand privilège.
Alors je reviens à votre livre « Courir l'escargot ». D'abord, il faut quand même expliquer le titre. Expliquez-nous, parce que j'ai découvert ça vient de
Courir l'escargot, ça vient de Bourgogne, des campagnes françaises. En fait, c'est intéressant parce que l'escargot, pendant très très longtemps, a été une source de protéines gratuites qu'on trouve dans la nature pour beaucoup de paysans et de paysannes. Et en fait, l'escargot, on le cueille pas, c'est pas un fruit, on le pêche pas, c'est pas un poisson, on le chasse pas, on le court. Et c'est comme ça qu'on disait en Bourgogne à l'époque. Ça désignait aussi le fait que c'est très compliqué d'attraper les escargots parce qu'il y a vraiment de toutes petites fenêtres où il faut arriver à le choper avant qu'il se cache dans sa coquille. Toute petite fenêtre temporelle parce qu'il n'y a que quelques mois dans l'année où il est en extérieur. Et puis aussi, juste après la pluie, il faut se dépêcher de mettre ses bottes pour aller l'attraper.
Exactement. Et un autre enjeu dans ce livre, c'est de nous montrer que du point de vue sociétal, civilisationnel, il faudrait ralentir pour ne pas mourir, en fait, pour ne pas cramer, pour ne pas se réchauffer. Et finalement, il y a des scènes très simples par lesquelles on voit la violence de ce que ça représente d'être humain dans ce monde capitaliste, dans ce monde de production, dans ce monde où on creuse le sol pour avoir du pétrole. Et ces scènes, c'est notamment quand en voiture, on écrase un animal, ou quand en voiture, ou même avec ses pieds, on écrase un escargot. Ce bruit dit très bien cette violence. Ça parle de ça aussi, le livre.
Ouais, complètement. Et ça parle aussi de quelque chose qui m'est... Oui, qui m'est venu, en fait, assez récemment, dans les années récentes, parce qu'évidemment, le combat antispéciste a pris aussi de l'ampleur. Je crois que c'est aussi quelque chose qui s'est fait dans la lignée des luttes féministes, et évidemment écologistes. Et c'est vrai qu'avant, je ne faisais pas forcément attention, en fait, aux pigeons écrasés dans les rues de Paris, aux hérissons écrasés au bord de la route. Et maintenant, quand j'en vois, je ressens une émotion... très très forte, en fait, une forme de petit deuil, parce que c'est des animaux qui sont victimes de la société, de nos comportements humains, et ça me déchire le cœur, ouais.
Oh oh, je dois tout recommencer. Oh oh, réécrire comme je l'avais pensé.
Sad Girl.
Sous le soleil de Platon. Charles Pépin sur France Inter.
Nous sommes toujours sur France Inter, sous le soleil de Platon, avec Lorraine Bastide. Et c'est très intéressant d'écouter à la fois votre parcours, votre regard. Et ça tombe bien parce qu'on écoutait Yoa, c'était pas fait exprès. Et vous m'avez dit pendant qu'on écoutait Yoa que vous l'aviez reçue, cette jeune chanteuse et compositrice française, dans votre podcast Folie Douce. Or, justement, je voulais vous poser une question, mais qui nous conduit au même lieu. C'est que j'ai l'impression que dans ce livre Courir l'escargot, où vous militez pour le ralentissement, mais aussi le ralentissement en tant que soin, en tant que thérapie finalement, et pour vous, et pour le monde, que c'est le livre par lequel vous semblez dire que maintenant votre point d'attaque, ça va plus être spécifiquement, on va dire, un angle féministe, mais l'angle de la santé mentale.
Oui, c'est vrai que l'escargot, c'est un petit peu le livre de la transition. Ça a beaucoup à voir avec la vulnérabilité. En fait, le féminisme m'a amenée à réfléchir à la santé mentale de plein de façons. Déjà, pour commencer, le fait que ces dernières années, j'ai interviewé beaucoup de femmes qui avaient été victimes de violences sexuelles. Et évidemment, on sait à quel point ces violences ont des effets psychiques et à quel point elles sont encore... assez mal traité, assez mal abordé sur le plan de la psychologie. Il y a encore beaucoup, beaucoup de recherches à faire pour comprendre. Puis on sait aussi que l'histoire des femmes est très liée à l'histoire de la psychiatrie. Enfin, j'y suis arrivée par énormément de biais. Mais aussi dans l'escargot, c'était un peu une volonté justement de sortir de ma propre coquille et de révéler mes propres failles, parce que moi aussi ma santé mentale elle a été très vacillante ces dernières années et je l'ai beaucoup masquée en étant dans le rôle de la journaliste qui fait bien son boulot et qui sourit sur les photos sur Instagram. J'avais quand même beaucoup de choses à régler et donc voilà, c'est un petit peu mon petit coming out.
Alors avec le recul, puisque maintenant votre nouveau podcast c'est Folie Douce, si vous regardez en arrière tout ce que vous avez fait avec La Poudre, on croit que c'était des millions d'écoutes, peut-être le podcast le plus écouté de France, je crois.
Parfois on dit ça, en tout cas, oui, plus de 20 millions de téléchargements.
Avec beaucoup de voix féministes, de chercheuses. Aujourd'hui, quel vous semble être l'enseignement le plus fort de tous ?
C'est très difficile. En fait, ce qui me vient à l'esprit, c'est que finalement... L'intuition qui m'a poussée à faire La Poudre, c'est-à-dire permettre à une personne de s'exprimer à la première personne au jeu, en longueur, sur une heure, est la meilleure façon de comprendre le monde. Et ça s'est confirmé sur 9 ans où j'ai fait cette émission.
Oui, c'est ça. D'ailleurs, c'était aussi ce qui a donné le livre Présente, avec cette idée que vous partiez de certains chiffres qui sont dingues. Par exemple, je crois... il n'y a que 4% de noms de rues féminins, 20% de monuments, enfin voilà, la place dans les médias, dans les places politiques. Et vous avez eu cette intuition très simple. Écoutez, on va accroître ces pourcentages, on va créer un média où il y aura plus de femmes qui parlent, un livre où on entend leurs propositions. Donc ça c'est un enseignement important, évidemment. La question que vous posez, c'est comment le féminisme pourrait sauver le monde ? Il y a plein de propositions. Et si on essayait de se dire, avec le recul, la principale raison d'espérer, ce serait quoi ? Et inversement, la principale raison de désespérer ?
Ok. La principale raison d'espérer... moi, étonnamment, en ce moment, je n'arrive pas à me départir d'une forme d'optimisme. J'ai l'impression que ces dernières années, on a construit des bases tellement solides, mes consoeurs féministes et moi, on a mis dans l'espace public tellement d'idées féministes, et puis c'est à travers le monde entier, à travers énormément de formes, voilà, il y a les formes artistiques, culturelles, littéraires, mais aussi évidemment les formes politiques, militantes, associatives, même dans les familles, dans les écoles, ça s'est joué absolument partout, que les forces réactionnaires, patriarcales, fascistes ont beau gesticuler en face, rien n'y change, le monde a vraiment changé en profondeur et je l'observe tous les jours. Donc en fait, ce qui me donne à espérer, c'est que je vois tous les jours que ça a changé partout. Ça va se jouer, je sais pas, une notice sous un tableau dans un musée, ouais. La phrase prononcée par un enfant en ma présence. Je pense que les choses ont profondément bougé et que ça reviendra pas en arrière. Une raison de désespérer, je dirais que c'est l'argent. C'est-à-dire que c'est aussi très compliqué de voir que les personnes qui sont aujourd'hui les plus puissantes, aujourd'hui économiquement, financièrement, portent des idées mortifères pour les femmes, pour toutes les minorités et pour l'environnement. Donc voilà, j'espère qu'on aura suffisamment de nos forces émotionnelles et intérieures pour combattre ces forces financières, quoi.
Ouais, j'ai bien aimé votre principale raison d'espérer aussi. en contrepoint léger... Récemment, dans un musée, il y avait des tableaux de Gauguin,
ouais.
De Picasso, et aucune notice. Hein.
Ouais.
Aucun, rien, toujours la même chose.
Ouais, bah j'ai vu un musée où justement il y avait un tableau de Gauguin où à côté du portrait de sa jeune épouse, il y avait une notice qui expliquait son qui elle était, son histoire.
Ouais.
Et c'était chouette de l'avoir ainsi réhabilité. Et puis je pense qu'il se passe beaucoup de choses dans les musées quand même. On a réhabilité pas mal de femmes artistes ces derniers temps, ça fait du bien.
Comment vous avez réagi quand Vincent Lindon a eu ce mot que moi j'ai trouvé plutôt bien, mais qui a été mal perçu. Moi j'aimerais aider le féminisme, comment je peux faire ? Et il s'est pris une volée de bois vert, comment vous voyez ça ?
Oui, c'est normal. C'est très agaçant. Alors après, les féministes se prennent des volets de bois vert dès qu'elles ouvrent la bouche, donc je vais pas pleurer pour Vincent Lindon, même si quelque part je le plains, parce que je pense qu'il vraiment il pensait pas à mal. Mais c'est exactement comme quand un homme dit « je vais t'aider à mettre la table, mais où sont les assiettes ? Tu peux m'expliquer où t'as mis les couverts, chérie ? Qu'est-ce que j'apporte sur la table ?» En fait, finalement, il vaut mieux le faire soi-même, plutôt que d'être aidé par quelqu'un qui n'y met aucune bonne volonté.
En fait, ce qui lui avait été reproché, c'est qu'il avait été sur plein de tournages où il aurait déjà dû s'exprimer, réagir, et c'était le passé. Mais le passé étant le passé, c'est quand même pas mal que des hommes se disent « je veux aider aujourd'hui, au présent, quel que soit le passé, au fond.
Oui, moi je pense que c'est bien. J'ai envie que plus d'hommes s'impliquent dans le mouvement féministe et viennent nous donner un coup de main. On en a vraiment besoin parce qu'on est fatigué, en fait. Ce serait vraiment super. Mais on est tellement loin du moment où, en fait, les choses seront suffisamment bien comprises. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'énergie de réexpliquer les choses. Il y a énormément de livres et de podcasts qui sont sortis sur le sujet. Donc voilà, si Vincent Lindon se fait une petite cure de la poudre cet été, il sera armé pour nous aider à rentrer.
J'espère qu'il nous écoute et qu'il va en prendre bonne note. Je voudrais qu'on termine sur cette notion d'écoféminisme. C'est aussi la fin de votre livre futur. Alors, je lis la fin que j'ai trouvée touchante, un petit peu lyrique. Et c'est important parce qu'on voit que, de ce point de vue-là, toutes les luttes se rejoignent, au fond. Donc, je vous lis Lorraine Bastide à la fin du livre futur sorti chez Allary Édition. « L'écoféminisme m'a fait comprendre le féminisme comme un embrassement complet du vivant. » Une lutte totale pour la justice et une restructuration complète de la narration. Ainsi passé au crible écoféministe, le féminisme n'est plus ni une mouvance politique ni un courant de pensée. Il est un geste accompli pour le vivant tout entier. Je suis féministe pour les femmes, mais aussi pour leurs enfants, pour leurs frères et pour leurs parents. Je suis féministe pour la terre qu'elles foulent de leurs pieds, les forêts qui y grandissent, les rivières où flottent leurs barques, les chênes qui les abritent et les myrtilles qui les nourrissent. Je suis féministe pour les hirondelles qui voltigent au-dessus de leur tête. C'est beau, hein. Moi, j'aime bien cette idée de s'ouvrir comme ça aux soins pour tous les vivants. On avait commencé l'émission par ça, je trouve ça important de finir là-dessus.
Oui, l'écoféminisme, c'est un mouvement, je pense, qui contient en lui-même absolument toutes les clés pour l'avenir de l'humanité. C'est un mouvement qui vient à l'origine plutôt hors de l'Occident. On peut citer par exemple la penseuse indienne Vandana Shiva, qui a été une des premières grandes théoriciennes de l'écoféminisme. Mais en Europe,
le définir.
Alors, l'écoféminisme, le mot en lui-même, on l'attribue généralement à Françoise Daubonne, qui est une grande militante féministe qui a beaucoup agi dans les années 70 en France, elle est française. Et c'est cette idée que finalement, on peut mettre dans un... On peut intégrer dans une même lutte la destruction qui est faite du vivant et les violences qui sont exercées contre les femmes, qui a cette espèce d'idée d'extraction de la fertilité de la terre qui correspondrait à l'extraction, à l'exploitation des ventres des femmes. C'était formulé comme ça à l'époque. Mais c'est aussi important de le relier au colonialisme. C'est pour ça que j'étais dans Vandana Shiva, qui, elle, a vraiment relié l'action coloniale, qui a à la fois, évidemment, exercé du racisme et une désintégration de tous les savoirs vernaculaires indiens, tout en exerçant une déforestation catastrophique et une domination sur les femmes indiennes. Et en fait, c'est la même main qui arrache tout ça.
Quelle main ?
À la main du capitalisme, la main du patriarcat, la main du colonialisme, qui sont trois façons différentes de désigner une même puissance.
Lorraine Bastide, dans votre parcours, j'aime beaucoup le fait que régulièrement vous reprenez des études. Je crois que vous avez fait des études à la fac, études de genre, à passer la trentaine, et maintenant, bon, je ne sais pas à quel âge vous avez exactement, mais vous venez de reprendre depuis quelques années des études de psychothérapie clinique, c'est ça ?
Alors non, je suis en psychologie, je suis en licence de psychologie. Voilà. Je suis repartie presque du départ, j'ai réussi à avoir une équivalence pour rentrer directement en L2. Je viens de valider mon L2 de psychologie à Paris 8. Et c'est vrai que j'adore étudier, c'est un endroit où je me sens vraiment dans mon élément, l'université. J'avais fait mon master en études de genre aussi à Paris 8 il y a une dizaine d'années. Et là, en m'emparant des questions de santé mentale, j'ai eu envie de comprendre comment on fabriquait la psychologie et d'être mieux équipée en tant que journaliste pour parler de ces questions-là.
Bien sûr. J'imagine que dans votre podcast Folie Douce, ça doit tout changer. Ah, c'est assez sérieux. Hein. J'ai vu sur Instagram vos cours, vos partiels.
J'avais des statistiques et de la biologie.
C'est très sérieux,
ça s'éloigne beaucoup de mes études plutôt sciences sociales que j'ai faites à l'époque.
Mais j'imagine que ça doit changer votre oreille. Hein. Quand vous êtes dans votre podcast Folie Douce, que vous avez eu ces cours-là, que vous voyez ce que c'est que l'approche des TCC, qu'on distingue d'autres approches comme de la psychanalyse classique, c'est vrai que ça doit changer l'oreille.
Oui, oui, ça affine ma compréhension. Après, c'est intéressant d'étudier la psychologie à mon âge, donc 44 ans, avec aussi tout ce passif que j'ai en sociologie, en lutte féministe et en journalisme, parce que j'ai un regard aussi critique. C'est-à-dire que je vois aussi les biais, notamment genrés, qui existent dans l'approche de la psychologie classique, même si Paris 8, c'est quand même une fac plutôt engagée sur ces questions-là. Et voilà, j'y vais avec un regard un peu critique et en même temps toujours toujours fascinée. Moi, je suis tellement attachée à l'université, à la transmission des savoirs, aux bibliothèques universitaires. Je suis toujours, en fait, émue que ces lieux existent encore, qu'il y ait des espaces où on puisse simplement aller s'instruire et apprendre. Et c'est pas, d'ailleurs, anodin de voir que Donald Trump s'attaque frontalement à l'université, parce que c'est un lieu de résistance politique extrêmement puissant. Donc voilà, je continue d'y aller, parce que c'est l'endroit que je préfère.
Alors, dans votre podcast, les 12, donc c'est deux fois par mois. Et ce sont des entretiens.
Oui, entretien d'une heure. C'est le même format que La Poudre, le même format qu'ici d'ailleurs, mon format préféré, ouais. Où je reçois à la fois des personnalités, par exemple comme Yoa, donc musicienne, chanteuse, qui parle de son propre parcours de santé mentale. Ouais. Elle a beaucoup écrit sur le sujet. Je pense qu'elle représente bien cette génération santé mentale qui sont les jeunes de son âge, qui sont dans la vingtaine, qui ont beaucoup plus de vocabulaire pour parler de leurs émotions et de ce qu'ils peuvent traverser. Mais je veux aussi recevoir des experts comme le psychiatre Mathieu Bellassé, qui est plutôt militant pour une psychothérapie institutionnelle. Voilà, j'essaie d'apporter des réflexions aussi bien intimes que politiques sur les questions
d'ailleurs,
de santé mentale.
Génération santé mentale, c'est le titre d'une de ses chansons.
Oui, en tout cas, elle le dit dans une de ses chansons. Ouais.
On pourrait vraiment espérer que grâce à tout ça, grâce à Yoa, grâce à vous, les jeunes s'autorisent plus à assumer leur fragilité mentale et notamment sortent de ce qui a longtemps été un réflexe de la jeunesse d'être en fait anti-psy, anti-thérapie. Il y a même une superstition de génération en génération au niveau de la jeunesse qui est que si j'ai un problème, si j'en parle, ça va l'ancrer. Ça va être pire que si j'en parle pas et si je vais m'amuser ou me divertir ou éviter finalement la question. Donc je crois que vous allez vraiment dans le bon sens. Ça peut vraiment aider les gens d'apprendre plus tôt ce que c'est, en fond.
Oui, complètement. Et puis, moi, je pense que c'est vraiment en train de se produire et qu'on a une jeunesse aujourd'hui qui est beaucoup, beaucoup plus armée sur ces questions-là. Et j'aime pas trop entendre les discours super alarmistes disant que c'est une génération qui va très mal. Alors, effectivement, les chiffres sont très mauvais. Il y a énormément de jeunes qui prennent des antidépresseurs. Il y a énormément de dépression, il y a énormément de détresse causée par les réseaux sociaux. On va pas se voiler la face, c'est une réalité. Mais je crois aussi que c'est parce que les choses sont plus nommées qu'avant qu'il y a une augmentation. Comme on a pu voir, par exemple, pendant les années MeToo, une augmentation des dénonciations pour viol. C'est pas qu'il y avait plus de viol, c'est qu'ils étaient plus nommés qu'avant. Donc j'ai l'impression que, même s'il faut être très vigilant et accompagner avec soin toute cette jeunesse, que tout ça c'est plutôt le signal d'une prise de conscience.
Merci beaucoup Lorraine Bastide. On a entendu ce mot sur lequel on s'arrêtera, avec soin. Je vais essayer de résumer la philosophie de la vie qui est la vôtre et qu'on a entendu ce matin. Ben, c'est très clair, hein. On l'a déjà évoqué, ce mélange de militantisme parfois fort et de douceur, de vulnérabilité. On a aussi entendu une invitation assez répétée à la nuance, à sortir de la pensée binaire, à sortir de la pensée dichotomique. Et puis évidemment, c'est comment ne pas résister. Il y a quelque chose d'un mélange de hâte et de ralentissement. Vous êtes allé vite, hein, vous avez fait plein de choses, et puis à un moment, vous avez découvert cette éthique et cette esthétique de l'escargot. Alors je finirai ainsi, une philosophie de l'escargot. Merci beaucoup, Lorraine Bastide.
Merci beaucoup, Charles.
Et je précise que vous sortirez à l'automne un nouveau livre sur la solitude au féminin qui porte pour titre « Seul ».
Enfin seul.
Enfin seul, pardon. Cette émission a été préparée par Estelle Gap, Audrey Carme et Laura Dumez. À la programmation musicale, Valentine Chaudebois. Elle a été réalisée par Alicia Vullo avec à la technique Julien Chabassu. Et tout de suite, on retrouve Yasmine Ouglis pour Grand Bien Vous Fasse. Bonjour Yasmine, quel est le programme aujourd'hui ?
Bonjour Charles, bonjour tout le monde. Alors ce matin, on va se demander comment prendre soin des autres. À tout de suite.